Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Bonjour, donc la blague se passe en Belgique. Vous avez le roi belge qui reçoit ses homologues de différents pays et ils sont toujours à la recherche d'énergie nouvelle. Donc là, le roi belge dit nous, en Belgique, nous avons trouvé donc la solution pour une énergie nouvelle et propre, c'est d'aller sur le soleil. Ah, toutes les autres personnes disent oui, mais attends, aller sur le soleil, c'est impossible, puisque pour aller sur le soleil, il y a une telle température. Ah, mais nous, en Belgique, on a trouvé la solution. Donc, nous irons la nuit.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Ozone Libre numéro 7 sur les ondes de Principe Actif. L'émission qui va vous parler simplement mais avec des mots compliqués. Rassurez-vous, on n'a pas tout compris nous non plus. 34 millions, 2,5 millions, 150 000, voilà des chiffres qui peuvent faire rêver. Nous aurons l'occasion de savoir à quoi ils se rapportent.
Magali, Stéphane, Jean de la Lune, Laurent, JC, Béatrice, Claire, Sandrine, Vivien, Timothée et Daniel.
Malheureusement, ce ne sont pas les chiffres de l'évolution du trou de la sécu de ces 6 dernières années, mais ces chiffres couvrent une réalité beaucoup plus inquiétante, celle du sida. Selon l'OMS, on estime à 34 millions le nombre de personnes séropositives dans le monde, soit 2,5 millions de personnes supplémentaires chaque année. À l'échelle de la France, on dénombre 150 000 personnes séropositives. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, qui a lieu chaque 1er décembre, pour la 24e année consécutive en 2012, nous avons choisi d'inviter Françoise du Centre de dépistage anonyme et gratuit, le CDAG, Aline Juglé, intervenante à l'abri et chargée de la prévention VIH, et Fatima, travailleur social à l'abri, en charge de l'accompagnement régional des personnes vivant avec le VIH. La journée mondiale de lutte contre le sida est née en 1988, dans la foulée d'un sommet mondial des ministres de la Santé à Londres, en Angleterre. Ces derniers ont convenu qu'une telle journée soulignerait l'importance et la gravité de la pandémie du sida et que chaque pays doit être responsable pour assurer un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien pour toutes les personnes vivant avec le VIH ou le sida. Entre 2011 et 2015, la journée mondiale de lutte contre le sida a pour thème objectif zéro, zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Le VIH est un problème sanitaire identifié depuis 30 ans. Aujourd'hui encore, une personne est contaminée toutes les 10 secondes. Depuis, de nombreuses campagnes de prévention ont été menées, des traitements ont été élaborés. Aujourd'hui, meurt-on encore du sida. Des progrès ont été réalisés, mais quel défi reste-t-il encore à relever ?
Un petit texte de Vanessa. Mon histoire commence le jour où tu m'as choisi, avec soin. En rentrant, tu m'as donné vie. Avec moi, tu partages toutes tes joies, tes peines, ta vie au quotidien. Tu prends soin de moi à chaque fois que tu me prends, à chaque fois que tu sors, que tu me prends au cas où tu aurais besoin. Et un jour, tu décides qu'une fois par semaine, tu auras besoin de moi. Alors, à mon grand bonheur, tu écris ce que tu as sur le cœur. Je suis heureux d'être avec toi, de partager ta vie. Et je ne te dirai jamais rien, car tu m'as acheté sur un présentoir et tu me donnes vie. Je suis heureux d'être ton stylo.
Sans toi, c'est juste une longue nuit sans lune, mais je t'y tiendrai dans mes bras. N'attendre pas les coups du sort, et puis se foutre du destin. Déterre notre force commune, fleurira le premier matin.
Bonjour, nous sommes là donc ici aujourd'hui pour parler donc d'un sujet relativement grave, puisque donc il s'agit donc du sida. Donc à ce sujet, nous allons poser quelques questions à nos invités donc qui sont là aujourd'hui. Alors je commence par une question toute bête. Quelles sont les recommandations pour les femmes VIH positives ou leurs enfants, notamment pour l'allaitement?
Alors, actuellement, les femmes enceintes, donc, et après qui accouchent évidemment, hein, ne doivent pas allaiter leurs enfants hein, lorsqu'elles sont positives. C'est leur recommandation.
D'accord. Et à quel moment un traitement est-il nécessaire?
Donc, Fatima Etoilal, travailleur en charge des personnes vivant avec le VIH à l'association L'Abri. Les recommandations par rapport à la mise sous traitement des personnes séropositives aujourd'hui, c'est dès la découverte de leur sérologie. Puisque plutôt les personnes ont un traitement, mieux c'est par rapport à leur prise en charge et par rapport à leur vie quotidienne. Donc dès qu'on peut, évidemment, on fait en sorte de préparer les personnes à être mises sous traitement, puisque c'est une prise en charge qui est assez lourde au niveau du quotidien. Donc il faut qu'il y ait plusieurs choses qui soient réunies, c'est-à-dire que la personne soit préparée, qu'il y ait un accompagnement, qu'elle puisse adhérer aussi à ce traitement-là, qu'on puisse lui expliquer tout ce qui va être mis en place et tout ce que ça peut aussi générer au niveau du quotidien. Mais aujourd'hui, plutôt les personnes sont prises en charge au niveau médical et ont un traitement, mieux c'est.
Concrètement, on commence le traitement si la personne adhère dès que l'on connaît sa séropositivité. On n'attend pas que l'on ait déclaré la maladie, donc le sida.
Une question importante me vient à l'esprit. Meurt-on encore aujourd'hui du sida?
Alors oui, malheureusement, il y a encore des décès liés au sida. Donc cette année, enfin si je ne dis pas de bêtises, cette année dans la région, il y a eu des décès, et notamment des personnes que nous on accompagnait. Alors que ces décès sont liés quelquefois justement à la non-observance des traitements, c'est-à-dire les personnes qui ne prennent pas de manière régulière leur traitement. Donc encore aujourd'hui, on meurt du sida, en effet.
Une question me vient donc à l'esprit. Les traitements ont-ils évolué?
Alors moi qui œuvre dans le champ de l'accompagnement depuis une vingtaine d'années, bien évidemment, il y a eu une amélioration au niveau des médicaments. Lorsque la trithérapie est arrivée dans les années 1996, c'était un grand soulagement pour tout le monde puisqu'on pouvait enfin proposer des prises en charge aux personnes. Et en fait, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau des recherches pour pouvoir proposer des médicaments qui avaient moins d'effets secondaires, qui étaient moins nombreux aussi au niveau des quantités, parce que c'est un virus qui est assez virulent, qui résiste au traitement, donc il faut l'attaquer avec plusieurs molécules. Donc il y a eu vraiment un grand effort fait pour permettre aux personnes d'être prises en charge, que ce soit le moins difficile pour eux et qu'on puisse combiner des molécules dans des traitements et qu'on puisse aussi proposer des prises dans la journée moins importantes, à savoir par exemple deux fois par jour, le matin et le soir, voire actuellement pour les personnes qui sont vraiment observantes, qui prennent bien leur traitement et tout, on peut arriver, je le dis, à un comprimé par jour.
Alors moi j'ai une question, Fatima, ou Aline ou Françoise. Alors que veut dire sida? Qu'est-ce que c'est en fait?
Alors donc Aline Jugelet, animatrice prévention à l'Abri. Alors le sida, en fait c'est quatre lettres et qui veulent dire, donc le S est un syndrome. Tout ça pour exprimer que lorsque le virus est présent dans l'organisme, il va détruire le système immunitaire. Et par la suite, on va effectivement avoir un certain nombre de maladies, qu'on appelle les maladies opportunistes, qui vont se développer. Le I veut dire donc au niveau du système immunitaire, le D déficient puisqu'il ne peut plus remplir son rôle qui est de défendre l'organisme contre les agressions extérieures, et le A veut dire acquise, tout simplement pour rappeler que même si nous sommes en 2012, qu'il y a eu beaucoup de progrès en particulier au niveau de la prise en charge et des traitements, reste qu'aujourd'hui ce virus, voilà, on n'a toujours pas trouvé le moyen de le détruire une fois qu'il est dans l'organisme et présent dans beaucoup effectivement de liquides du corps.
Quels sont les moyens de contraception pour prévenir le VIH?
Alors,
sur deux choses.
On a, c'est pas la contraception, c'est pour pas être enceinte. Hein. Donc là, c'est plus pour ne pas contracter le virus. Hein. Donc, si vous avez un doute sur votre statut sérologique, c'est-à-dire si vous pensez avoir pris un risque, eh ben il y a des centres qui existent, hein, comme là où je travaille. L'on appelle le CDAG, Centre Dépistage Anonyme et Gratuit du VIH et de toutes les infections sexuellement transmissibles. Donc, si on pense avoir pris un risque, hein, si c'est urgent, eh bien, on n'a pas le choix. On va à l'hôpital aux urgences, où là, après un questionnaire avec le médecin, on a un traitement préventif à prendre, si le risque est réel, avec une prise de sang qui sera évaluée jusqu'à 3 mois après la prise de risque, pour être sûr que tout va bien. Autrement, on va dans notre centre, le centre dépistage, où on vous fait cette prise de sang et que l'on contrôle aussi jusqu'à obtenir les 3 mois pour être totalement rassuré. Voilà.
Y a-t-il encore des personnes qui pensent que ça peut se transmettre par une poignée de main ou un baiser ?
Oh oui, et ça, c'est aussi une grande préoccupation. Et nous, on travaille beaucoup autour de ça pour éviter tout ce qu'on peut mettre dans son grain de gruyère de la discrimination. Et voilà, de retrouver des femmes et des hommes qui, du jour où ils annoncent leur séropositivité, d'une part, voilà, d'être rejetés par leur famille, même leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. Et le milieu du travail, d'ailleurs, n'est pas toujours un milieu particulièrement favorable pour la poursuite de l'activité professionnelle. Et même si régulièrement, on rappelle voilà, les modes de transmission, ils sont quand même suffisamment clairement expliqué régulièrement. Aujourd'hui, voilà, on peut encore rencontrer des hommes et des femmes à qui on ne serre plus la main, à qui on n'a plus du tout envie d'être assis à côté d'eux, qu'on aurait bien envie de plus voir dans notre bureau en tant que collègue, alors que voilà, le virus ne se transmet absolument pas comme ça, et qu'au bien au contraire, continuer à côtoyer une personne séropositive, c'est quelqu'un qui a encore sa place dans la société, qui peut sortir, à qui on peut faire la bise, on peut aller à la piscine, on peut aller au cinéma, on peut manger une pizza ensemble. On n'a strictement rien à craindre, rien du tout.
Une question donc me vient à l'esprit. Est-ce encore une maladie honteuse ?
Alors, comme le disait ma collègue Aline Jugelet, en effet, nous sommes en 2012 et c'est encore une maladie honteuse. Alors, c'est dû à quoi ? Tous les préjugés dont on vient de parler, à savoir une désinformation par rapport au mode de contamination, puisqu'il n'en existe que 3 par relation sexuelle non protégée, par voie sanguine, lorsqu'il y a des échanges de matériel, par exemple, pour les personnes qui consomment des produits, et d'une mère à son enfant, et notamment lors de l'allaitement. Il n'y a pas d'autres modes de contamination identifiés. Et le fait qu'il y ait cette désinformation fait que les personnes ne disent pas leur statut sérologique, ne parlent pas de leur maladie, au risque justement d'être mis à l'écart au niveau de la société. Donc, dire aujourd'hui « je suis diabétique », ça ne pose pas de souci. Dire qu'on a un cancer, ça sollicite même un regard bienveillant des personnes qu'il y a autour de nous, mais dire « je suis séropositif », aujourd'hui, reste quand même quelque chose de très difficile. Très difficile parce que ça touche aussi la sexualité, quelque chose d'intime pour chacun d'entre nous. Et voilà, je pense que c'est aussi ça qui fait peur à tout le monde. Et dire qu'on est séropositif reste aujourd'hui quand même très difficile pour certaines personnes. Même si en effet, nous, dans l'accompagnement, on leur dit, voilà, plus on en parlera, plus on dira que ça existe, plus on pourra en discuter autour de nous. Parce que pour moi, le silence, il y avait cette phrase-là, le silence égale mort, et moins on en parlera, plus ce sera discriminant et honteux pour les personnes qui vivent au quotidien avec le VIH.
Une question me vient donc à l'esprit. On parle de traitements, mais les traitements sont-ils pris en charge ?
Alors oui, en France, les traitements sont pris en charge à 100%. Donc, dès qu'une personne découvre sa sérologie, il y a un protocole qui est rempli par le médecin. Tous ces soins, ces médicaments sont pris en charge à 100%. Maintenant, moi, en tant que travailleur social, ce que je rencontre, c'est des personnes, puisque il y a les traitements donc, du VIH en lui-même qui sont pris en charge, mais il y a tous les autres médicaments, quelquefois, qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, à savoir quand il y a un problème de peau, des crèmes qu'on ne peut pas... rentrer dans le 100%, les soins dentaires par exemple. Il y a des petites choses annexes qui sont nécessaires pour une qualité de vie pour les personnes qui vivent avec le VIH, qui ne sont pas malheureusement prises en charge. Mais le traitement lui-même, les soins, les rendez-vous médicaux, ce qui est vraiment essentiel, est quand même pris en charge.
on mélange un petit peu les mots et j'aimerais connaître la différence entre la séropositivité et le sida.
Alors, la différence entre la séropositivité et le sida, une personne qui est séropositive, c'est une personne qui est porteuse, c'est-à-dire qui vit avec un virus dans son corps, donc elle est séropositive, mais elle n'est pas malade. Quand on parle du sida, c'est une période où les défenses immunitaires de la personne sont très 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 basses et sa charge virale est très 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 importante. Donc là, elle rentre dans une phase de la maladie, sida. Mais une personne séropositive n'est pas une personne malade. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter.
C'est pour ça que très souvent, maintenant, on parle plutôt d'infection. Hein, et également, ce que nous avons appelé pendant longtemps les maladies sexuellement transmissibles, on parle d'infection hein, sexuellement transmissible. Tout ça pour rappeler que voilà, les virus ou les bactéries sont présents. On n'a pas forcément des signes bien particuliers pour annoncer hein, que nous avons été en contact avec ces virus ou ces bactéries. Mais malgré tout, voilà, l'état de santé de la personne infectée va pouvoir un peu résister face à tous ces micro-organismes. Et c'est effectivement, s'il n'y a pas de prise en charge rapide, que là, bien sûr, l'organisme ne pourra plus se défendre et que voilà, on arrivera dans une phase différente qui est vraiment la phase de la maladie. Donc on appellera sida à ce moment-là.
Je vois que tout le monde me regarde. En fait, ce qui était prévu dans l'interview, c'était qu'on le coupe avec un extrait d'un micro-trottoir que vous aviez enregistré dans la semaine dernière sur justement le thème.
Qu'est-ce que le VIH, ou si vous voulez le sida, évoque pour vous ?
Eh bien, une maladie dont on pouvait se priver. Parce qu'avec toutes les conditions qu'on offre aux gens actuellement, il ne devrait plus en avoir.
Quels sont les médicaments contre le VIH ?
Oh, alors là, je l'ignore parce que moi.
Est-ce qu'il y en a des médicaments ?
Oui, il y en a actuellement. C'est d'ailleurs un peu en régression, me semble-t-il, n'est-ce pas ? Mais je ne me rappelle plus le nom de ces médicaments.
Quelles sont les actions de prévention ?
Ah, les préventions, il y en a qu'une, une belle, c'est l'emploi du préservatif, tout simplement.
Quand on a le VIH, que doit-on faire ?
Se faire soigner, se présenter tout de suite à. Et puis ne pas le coller aux autres, éventuellement. Hein ? Ça, c'est une.
La plus quand belle on... chose, c'est de tendre la main.
Aujourd'hui, donc, une question.
Est-ce que déjà, il y a des réactions par rapport au micro-trottoir ?
Alors c'est vrai que quand on parle des modes de transmission de ce virus, celui qui est en premier est bien sûr la sexualité. Et en face, pour se protéger de toute contamination dans le cadre de la sexualité, c'est effectivement l'utilisation du préservatif. Donc voilà, ce monsieur a tout à fait raison. Maintenant, il est bien évident que même si on en parle quand même depuis de très très nombreuses années, notre travail n'est pas fini. Parce qu'entre recevoir des informations, c'est une chose, mais avoir le déclic et les utiliser au bon moment, ça demande encore effectivement un travail aussi sur l'approche du préservatif qui n'a pas forcément toujours bénéficié d'une publicité particulièrement positive parce que c'était associé aussi aux personnes qui pouvaient aller voir des prostituées. Donc on a toujours effectivement un gros travail à faire, mais voilà, ce monsieur a tout à fait raison.
Sachant qu'il n'y a pas que le préservatif masculin, il y a également le préservatif féminin. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup et justement, je vais saisir cette occasion qui m'est donnée de dire que ce serait bien qu'il soit disponible en pharmacie parce que lorsqu'on en demande un et qu'on nous dit qu'on va nous le commander, moi, je n'ai pas un planning où je mets quand est-ce que je vais avoir envie d'avoir une sexualité sur un planning d'une semaine, 15 jours, 3 mois. Et l'autre chose aussi, ce que je voulais dire, c'est que ça serait bien aussi que pour nous les femmes, qu'on ait cette possibilité de pouvoir aussi prendre en charge notre sexualité et que ça coûte un peu moins cher, s'il vous plaît, parce que 2,50€ à 3€ le préservatif, je vous dis pas, hein, je crois pas que je vais consommer beaucoup.
Alors, pour information, vous pouvez avoir des préservatifs féminins et masculins gratuitement dans les centres de dépistage.
Justement, on voulait en profiter pour vous demander quelles étaient concrètement les actions de prévention que vous menez.
Alors, en ce qui concerne l'abri, donc nous, on développe beaucoup d'actions de prévention. Alors, à l'échelle du département, hein, même si le département de l'Eure est très grand, on essaye de couvrir un maximum le département, et en particulier d'aller loin. Il y a des zones quand même du département, puisqu'il a quand même encore une vocation assez rurale, notre département de l'Eure. Et il y a des secteurs du département où il y a des établissements scolaires, mais le premier hôpital est aussi très très loin. Les centres de planification qui peuvent aussi gérer l'information et le recours au dépistage sont aussi pas forcément accessibles. Donc notre travail est d'aller en priorité vers les publics qui n'ont pas encore de sexualité ou qui viennent effectivement d'avoir leur première relation sexuelle pour voilà, les informer sur effectivement les risques sur la sexualité. Et on n'oublie pas non plus que ce jeune public est aussi un public qui sort. Donc leur rappeler bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, le fait d'utiliser certains produits, de partager du matériel. Et on va élargir un petit peu notre prévention en reparlant des piercings et des tatouages qui, de nouveau, sont effectivement tout un tas de modifications du corps qui attirent beaucoup le jeune public. Donc de leur rappeler qu'il est hors de question de faire ça entre guillemets à l'arrache à la sortie d'un concert, qu'il vaut mieux prévoir d'aller chez des tatoueurs ou des perceurs qui vont faire ça dans de très très bonnes conditions d'hygiène. D'une part aussi parce qu'il y a deux autres virus qui sont aujourd'hui particulièrement fréquents et associé au VIH, qui est l'hépatite B et l'hépatite C. Ensuite, on ne va pas se contenter d'aller rencontrer ceux et celles qui n'ont pas encore de sexualité, on rencontre ceux qui en ont une ou qui en redémarrent une alors qu'ils sont adultes et qu'il y a eu une rupture pour de nouveau refaire le point. Et peut-être, lorsqu'on parle de sexualité, eh bien d'avoir une sexualité avec un S majuscule ou un S à la fin, peu importe. Tout simplement pour rappeler que dans la sexualité, il n'y a pas que de la pénétration, qu'il y a des fellations, qu'il y a des cunnilingus aussi qui sont là et qu'il faut aussi se protéger, qu'il y a aussi de quoi se protéger dans ce cadre-là. Même si ce n'est pas toujours accessible. Et puis bien sûr, notre rôle est d'aller vers des publics qui sont très éloignés aussi de la prévention, ceux qui sont en centre d'hébergement et les populations issues de l'immigration, où là, c'est un petit peu plus difficile en ce sens qu'il y a des différences culturelles. Donc là, vous y allez effectivement tout doucement. Et puis, quelquefois, nous manquons d'outils. Parce que voilà, quand un public maîtrise la langue française, ça va, c'est facile, bien que. Mais voilà, en anglais, on a de bons restes du lycée, mais c'est pas toujours évident. Maintenant, j'ai pas appris ni le turc, ni toutes les langues, effectivement, qu'on peut rencontrer en Afrique. Donc, quelquefois, c'est assez difficile. Et nous avons actuellement aussi des publics qui viennent beaucoup d'anciennes Europe de l'Est, les anciennes républiques aussi soviétiques, où là, on a un travail aussi qui est démarré aussi, entre autres avec France Terre d'Asile, où là, j'ai travaillé avec une traductrice. Donc, c'est quand même assez sympathique. Et puis, on n'oublie pas tous les autres qu'on rencontre jamais. Et là, on joint l'utile à l'agréable, c'est qu'on aime bien aussi être en extérieur. Donc, c'est le Festival Rock, c'est Grosse Oeuvre, c'est plein d'autres structures. Et puis donc demain, on n'aura pas le soleil ni l'hippodrome, mais nous allons nous installer en ville, donc au miroir d'eau, pour voir un stand, donc de 10h à 16h. Et là, on va pouvoir rencontrer ceux et celles qu'on ne rencontre pas d'habitude. Et il y en aura aussi un Vernon. Voilà.
Les méthodes de prévention ont-elles évolué après 24 années de prévention ?
Alors, les méthodes de prévention, oui, dans les premiers temps, en effet, quand la pandémie, c'est-à-dire quand le virus se propageait de manière importante, on était vraiment sur le préservatif, sur dire aux personnes, voilà, il n'y a pas d'autre solution que de se protéger par le préservatif. Aujourd'hui, on a quand même un discours différent au niveau de la prévention. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ceux qui contaminent, ce ne sont pas les personnes qui vivent avec le VIH et qui connaissent leur statut sérologique, qui sont pris en charge, qui prennent leur traitement, qui sont suivis de manière régulière. Ces personnes-là ont moins de risques, d'ailleurs très peu de risques de contaminer les autres. C'est les personnes qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas qu'elles sont porteuses de ce virus-là, qui continuent à contaminer les autres. D'une part, d'autre part, au niveau de notre discours nous-mêmes, puisque je dis ça fait 20 ans, aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise de parler de la sexualité, comme disait ma collègue tout à l'heure, les pratiques sexuelles, de demander aux personnes comment est-ce qu'elles pourraient, tout en ayant une sexualité épanouie, comment est-ce qu'on pourrait les aider, les accompagner pour qu'elles puissent se protéger. Donc on a un discours différent, et une chose qu'on a oubliée aussi au niveau de la prévention, c'est l'association L'Abri fait quelques jours, des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique.
Donc en fait, on a été formés pour pouvoir justement aller vers le public qui ne va pas vers les dépistages pour une orientation. On n'est pas médecin, on ne donne pas de diagnostic. On est là juste pour aller vers le public, les mettre en confiance, pouvoir faire un premier test si en effet elles ont été en contact ou pas du virus pour pouvoir les accompagner après auprès de nos collègues aux urgences d'Evreux ou au CDAG.
Bien, bah après donc toutes ces questions, on y voit un peu plus clair, même s'il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc il nous reste une chose à faire, c'est à vous remercier donc, d'avoir répondu donc, à ces questions. Nous remercions Fatima, nous remercions Aline et Françoise.
Merci.
Merci à vous. Merci.
Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un, on le tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents, dans les jours où c'est un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. Je l'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment guettera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire. Mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir. Même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau.
Eh bien, comme à chaque émission, nous allons maintenant écouter donc la petite cuisine donc d'Ozone Libre, toujours des plats à des prix très modestes. Merci.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Bienvenue dans la cuisine, la petite cuisine d'Ozone Libre.
Voilà, d'Ozone Libre.
Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Alors, on va faire des gaufres.
Des gaufres pour 12, gaufres pour une douzaine de gaufres
pour 12 personnes. Voilà, tout ça.
Vous alors, donnez les ingrédients.
On va faire
donc,
la pâte.
Pour une douzaine de gaufres, il faut 80 g de beurre, 75 g de sucre, ce qui correspond à un volume de 15 centilitres.
Oui, le sucre.
Un sachet de sucre vanillé,
là,
ça on a, 3 œufs, 200 g de farine, ou un peu plus, 5,5 g de levure chimique, un demi-sachet, et un quart de litre de lait. Donc, la recette, on commence par faire fondre les 80 grammes de beurre.
De beurre.
Donc, on va faire fondre 80 grammes de beurre au micro-ondes.
80 beurre au micro-ondes.
Comme on en avait convenu.
Chauffer.
Donc, on va. Il y a des marques de 25 grammes, donc 3 fois 25, 80. Donc, on attend que le beurre fonde.
On attend le beurre qui fonde.
Voilà.
Et puis après, on va faire ça, la pâte, le restant.
Voilà, le restant. En attendant, on peut déjà mesurer le sucre.
On peut mesurer le sucre.
On a dit que les 75 grammes de sucre faisaient.
75 de sucre.
On peut verser avec 15 centilitres.
15 centilitres. Allez, on verse le sucre. Le sucre.
Donc, on n'a pas de fer doseur, donc on peut utiliser un demi-verre de bière, par exemple.
Voilà.
Donc, maintenant que le beurre est fondu,
on va mettre le sucre.
On va mélanger le sucre. Non, là, on peut mélanger tout ça déjà. On peut commencer à mélanger. Dans le saladier, donc. On approche les 12 centilitres.
12 centilitres, on approche.
On ajoute aussi le sucre vanillé. Voilà, le sachet de sucre vanillé. Donc ensuite, on va battre deux œufs entiers avec un jaune d'un troisième œuf à la fourchette. Et on va réserver le troisième blanc. Voilà. Donc, on bat les œufs à la fourchette. Alors, pour le troisième œuf, on va séparer le blanc, qu'on va garder de côté pour le moment, et rajouter le jaune avec les deux autres œufs. Voilà. Ensuite, on va ajouter la farine et la levure.
La levure. Alors, je commence par ça avant.
Oui, donc on met un demi-sachet de levure.
D'accord. On met la levure.
Donc, il faut bien battre les œufs. Oui, on va.
Oui. Bon, j'en verse dans le saladier la farine.
Et l'ajouter.
Voilà.
Et
bon.
On l'ajoute au mélange.
Au mélange. Et voilà. Il y a tout là-dedans.
Ensuite, on ajoute progressivement le quart de litre de lait, en continuant à mélanger.
Oui, merci.
Alors, si c'est trop liquide, on peut rajouter de la farine.
Oui,
parce que c'est avec parcimonie. Mélanger le mélange. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à battre le dernier blanc d'œuf qu'on a réservé et de l'ajouter à la pâte.
Ah.
Alors,
oui.
Daniel, on va rappeler ce qu'on a fait.
Oui, alors on a fait des gaufres.
Des gaufres.
Des gaufres.
Pour 12 gaufres.
12 gaufres.
On a compté 80 grammes de beurre.
80 grammes de beurre.
75 grammes de sucre.
75 grammes de sucre.
Un sachet de sucre vanillé.
Un sachet de sucre vanillé.
3 œufs.
3 œufs.
200 grammes de farine, 5,5 grammes de levure chimique, un quart de litre de lait.
Un quart de litre de lait.
Une recette très simple et qui coûte que quelques euros.
Voilà.
Ouais, un peu de sucre glace sur les gaufres.
Oui, sous les gaufres.
Sinon, on peut mettre un peu ce qu'on veut, chantilly.
Oui, chantilly, oui.
Un peu de pâte chocolat
ou confiture, l'un ou l'autre.
Ou de la confiture.
L'un ou l'autre. Bon appétit.
On vous souhaite un bon appétit.
Pendant la cuisson des gaufres, un petit tour du côté du micro-trottoir.
Allez, qu'est-ce que cela évoque pour vous, le VIH ?
Un truc grave, quoi. Voilà.
Mais encore ?
Très grave. Il faut s'en occuper, il faut investir du pognon, plutôt que dans les armes. Voilà.
Y a-t-il des médicaments pour traiter cette maladie ?
Y en a sûrement, mais je pense que ça reste individuel. Les soins, c'est pas pour tout le monde pareil, quoi. D'après ce que j'ai entendu.
Qu'est-ce que vous pensez des actions de prévention qui sont menées ?
C'est bien, il faudrait faire mieux,
Si
c'est possible.
Ouais.
Je crois que c'est possible.
Comment on pourrait faire mieux, par exemple ?
Comment on pourrait investir du pognon. L'argent, c'est l'argent qui parle maintenant. C'est l'argent qui fait des choses.
Plus de pub à la télévision ?
Pourquoi pas ? Plutôt que de faire de la pub pour vendre de la merde, tant mieux faire de la pub pour que les gens investissent un peu plus là-dedans. Voilà. Pub gratuite, même.
Savez-vous ce que l'on doit faire lorsqu'on se trouve exposé au VIH ?
Consulter, faire ce qu'il faut pour pas propager le virus.
Qu'est-ce que cela évoque pour vous, le VIH ?
Une maladie grave.
Y a-t-il des médicaments pour le VIH ?
Il paraît. Après, il y a des études qui ont montré qu'il y avait, j'ai vu ça la semaine dernière à la télévision, qu'il y avait un traitement apparemment en cours, mais pas chez nous. Donc maintenant, ce que ça donne, on ne sait pas trop.
Que pensez-vous des actions de prévention ?
Bien, mais toujours pas suffisante, je trouve.
Qu'est-ce que cela évoque pour vous, le VIH ?
Ah, maladie.
Y a-t-il des médicaments contre le VIH ?
Alors là, je connais pas le nom, mais il y en a.
Que pensez-vous des actions de prévention ?
Ils pourraient plus informer, déjà, parce que je trouve qu'ils sont pas assez informés. Il y a des choses qui sont pas assez informées pour les jeunes, c'est pas assez informé.
Il y en a moins en moins, peut-être.
De quoi ? D'informations ?
D'informations, oui.
Moi, je pense qu'ils sont pas assez informés, on n'informe pas assez. Ils informent des choses, mais pas assez là-dessus.
Que doit-on faire quand on a le VIH ?
Que doit-on faire ? Déjà se protéger.
Bonjour.
Voilà, déjà on lui dit bonjour et puis on l'ignore pas. C'est pas marqué sur son front qu'il est séropositif, je suis désolée. Hein. C'est un être humain, il est comme tout le monde.
Bien très prudente.
Oui, je suis prudente, mais même c'est quand même des gens comme tout le monde. Faut pas, voilà, on les met pas à l'écart.
Soit là, je la vis.
Ah oui, je suis d'accord. Mais faut être prudent, faut pas forcément les mettre de côté.
Le sida, c'est une maladie contagieuse quand on fait l'amour.
Ouais. Et y a-t-il des médicaments pour le VIH ?
Je ne sais pas. Je pense pas, non.
Est-ce que vous avez entendu parler des actions de prévention ? Comment on se protège du sida ?
Oui. Par une capote, non ?
Ouais.
Ouais.
C'était donc notre micro-trottoir, donc au sujet donc, du sida. J'ai envie de vous poser donc une des dernières questions. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui donc, de ce que vous venez d'entendre ? Est-ce qu'on a évolué ? Est-ce qu'on évolue ? Est-ce qu'il y aura donc des traitements donc, qui ne soient pas trop lourds, remboursés par la Sécu ? Bon, ça, sont des choses importantes. Donc, j'aimerais vous poser la question à vous, Fatima, Aline, Françoise.
Alors, sur la communication autour de du VIH, je suis en accord en disant que depuis l'arrivée des trithérapies, les années 2000, on a moins communiqué, à part la journée mondiale SIDA, et encore. Donc, il faut plus d'informations, il faut que les jeunes, en effet, soient informés. Nous, on intervient en milieu scolaire, mais il faudrait que ce soit... que les médias, en fait, n'attendent pas juste la JMS pour parler de ce sujet-là, puisque c'est un sujet quotidien. Ce que j'ai apprécié dans le micro-trottoir, c'est la personne qui parle des personnes vivant avec le VIH comme des personnes normales, où c'est pas marqué sur le front, en effet. C'est des personnes comme vous et moi, et qui ne sont pas un danger pour nous au quotidien. Et d'ailleurs, c'est peut-être nous qui pouvons être un danger pour eux. C'est-à-dire, je donne un exemple, lorsque moi je suis malade, je ne vais pas rendre visite à une personne séropositive, parce que moi je peux me défendre... par rapport à mon état, mais je peux la mettre en danger aussi. J'ai un gros rhume, une grippe, voilà. Donc oui, il y a encore du travail à faire au niveau de la communication. Oui, il faut promouvoir l'utilisation du préservatif, et il faut surtout lutter contre les discriminations par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH. C'est ça qui est important aujourd'hui, le message que je souhaitais passer. C'est très important.
Et maintenant, on va passer au gazouillis de Jean.
Un conte qui n'est pas de Noël. Je parle bien des fleurs de Noël. C'est simplement un toit de verdure. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui était une toiture. Il m'a dit, comment tu t'appelles ? Toi, Théoï. Et il m'a dit, non, moi c'est moi. Je parle pas du chocolat. Non. Il me dit, éteins-le. Ah non. Je, tu, il, nous, vous, il, elle, nous sommes. Non, je fais pas la sieste, quelle que soit l'heure de la journée. Mais je ne suis pas une sommité. Et ni une sommation. Ça, c'est un peu plus délicat. Alors pourtant, je suis à peu près certain que la toiture est une couverture qui cache une apparence. c'est peut-être votre être qui n'est pas un boulot. Peut-être du charme, peut-être du être, peut-être du platane.
Un texte de Magali. Si j'avais rencontré l'abbé Pierre, je lui aurais dit mes respects pour tout ce que vous faites pour beaucoup de personnes. Si j'avais rencontré Marie-Antoinette, je lui aurais dit « Dites-moi le nom de votre coiffeur ». Si j'avais rencontré Dieu, je lui aurais dit « Merci de m'avoir gardé en vie ». Si j'avais rencontré Coluche, je lui aurais dit « Fais attention avec ta moto ». Si j'avais rencontré le Père Noël, je lui aurais dit « Tu m'as oublié il y a 2 ans ». Si j'avais rencontré un inconnu, je lui aurais dit « Avez-vous une pièce, s'il vous plaît ?» Si j'avais rencontré un chien, je lui aurais dit « Fais attention à la route ». Si j'avais rencontré le président, je lui aurais dit « Bonne chance, il y a du boulot ». Si j'avais rencontré Jean-Marc Ayrault, je lui aurais dit « J'ai de l'empathie pour vous ». Si j'avais rencontré Jean-Yves Lafesse, je lui aurais dit « Continuez à me faire rire ». Si j'avais rencontré Lady Gaga, je lui aurais dit « D'être un peu plus sage ».
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre. Il était une fois, dans le cabinet médical de la banlieue d'Évreux. Le docteur Narvalo remplace le docteur Lambert et attend son prochain patient. Les malades se regardent et là...
Allez-y ma petite dame, je vous en prie, je ne suis pas pressée.
Eh bien écoutez, moi non plus, figurez-vous, je ne suis pas pressée. Vu la tête du livreur, je vous laisse mon tour et j'aviserai après.
Oui, enfin, vu les tarifs, je vais au distributeur. Parce que là, je suis un peu juste.
Un nouveau patient vient d'entrer dans la salle d'attente.
Bonjour, monsieur, dame.
Bon alors, c'est à qui ?
C'est à lui, il a l'air malade. Bah oui, il est tout bleu.
Bon, je n'ai pas que ça à faire. Hein. Allez-vous entrer ? Assis, carte vitale.
Le nouveau patient vient d'entrer dans le cabinet. Pendant ce temps, dans la salle d'attente...
Bon, je vais aller chercher des thunes.
Non, non, vous en faites pas pour ça. Je vous avance la consultation, ça me fait plaisir. Et qui plus est, ça me rassure.
Oh non, je suis gêné.
De l'autre côté, dans le cabinet...
Bon sang, ouvrez la bouche, vous n'êtes plus un gosse.
Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui faire ? Pourquoi il gueule comme ça ?
Ça me rassure pas, ça me fout la trouille.
Non, oh, mais c'est peut-être parce qu'il est un peu douillé quand même.
Arrêtez de brailler comme une truc, on égorge.
Allez, c'est Val.
Je vous arrache juste une molaire.
Mais c'est pas là que je fais mal !
De rage, le patient mord le médecin.
Bon, vous n'êtes pas bien. Je crois qu'elle est pourrie, votre dent.
Oh, j'insiste plus. J'en ai marre de prendre des claques.
Le calme revient dans le cabinet du docteur Narvalo. La dent du patient est enfin arrachée.
Alors, une chose importante. Pour que la petite souris passe, pensez à mettre votre dent sous l'oreiller.
Pressé de quitter ce lieu de torture, le patient jette un billet de 100 euros sur le bureau du Narvalo. Il quitte le cabinet en courant. Le médecin, les mains pleines de sang, ouvre la porte de la salle d'attente pour aller chercher serpillière, seau et encens afin de nettoyer ce carnage.
Ne bougez pas, je reviens de suite.
La porte du cabinet reste entrouverte. Les patients en profitent pour jeter un œil et aperçoivent un fauteuil Voltaire maculé de sang. Horrifié, il se lève subitement.
Non, 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 je vous vois venir, je ne suis pas votre cobaye.
Puisque vous êtes debout, allons-y. Hein.
Non, non, je vous vois venir, je ne suis pas votre cobaye.
Ben, puisque vous êtes debout, allons-y.
Là, Laurent, là.
Ah, si c'est comme ça, je me barre, je ne vais pas me faire charcuter. Lâchez-moi, me touche pas, espèce de malade. Tu me salives comme un peine de sang. Au secours, aidez-moi, madame.
Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein, docteur.
Le patient s'accroche à tout ce qu'il peut attraper. Dans la bagarre, la table basse, les jouets et les Figaro Madame volent dans tous les sens.
Bon, carte vitale.
La porte se referme sur le patient à son grand désespoir.
Bon, qu'est-ce qui vous amène ? C'est quoi votre problème ?
J'ai mal au genou.
À quel genou ?
Aux deux, j'ai eu des infiltrations, j'ai fait de la rééducation en piscine.
Écoutez, cela tombe très bien. Je suis spécialiste des prothèses, ma mère et autres.
Des prothèses, mais vous êtes fou.
Oh oui. Je me suis fait la main sur ma belle-mère. Alors. Ça tombait bien. Chose pas facile parce qu'elle est coriace la vieille. Hein. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux.
Non non, je vois venir. Je ne suis pas votre cobaye.
Ne vous en faites pas maintenant. Je maîtrise. J'ai peu de rejets.
Quelqu'un entre brutalement dans la salle d'attente. Il referme la porte et y plaque son dos, l'air paniqué, le regard hagard, les cheveux hirsutes, à bout de souffle et les genoux qui tremblent.
Que vous arrive-t-il, mon ami ? Vous avez l'air apeuré.
Oh, poursuit ! J'ai peur ! Au secours !
Docteur, c'est une urgence.
Priorité aux urgences. Ouf, je suis sauvé.
Mais je m'en fous ! Je veux dire, moi.
Que se passe-t-il ? Vous pourriez attendre votre tour, hein ?
À toi, Jean.
Allez, plus rien, là. Ah, si je m'en fous, je me tire.
Qu'est-ce qui se passe, hein? L'incompréhension est totale. Stupeur et tremblement. Les protagonistes se regardent interloqués. Qui était cet homme? Jouait-il les blancs ou les noirs? Avez-vous compris quelque chose? Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Bonjour, j'arrive de Meaux, j'ai pris la cascade, je n'ai pas vu le fromage, mais je ne veux pas en faire un fromage. Alors, j'ai grimpé le Mont Blanc, j'ai pas vu les marches, pourtant j'ai bien pris une dégringolade, sans marmelade, et pourtant c'était bien une escalade. Non, c'était simplement un fromage de Meaux.
La minute du pôle, prendre soin. Il est intéressant de noter les distinctions entre l'idée de faire du soin et celle de prendre soin de quelqu'un. C'est cette différence qui permet d'inscrire son action, le contenu de son métier, dans une perspective soignante, porteuse de sens et aidante pour le sujet. Faire du soin renvoie à l'acte de soin en termes techniques et donc de façon objectivée, alors que prendre soin implique que le soignant considère la personne vers qui il va dispenser ses soins. Il peut soigner une maladie, mais aussi entreprendre une relation soignante. Ce concept de prendre soin renvoie le soignant à ses propres valeurs, à cette intention particulière portée et à son éthique du soin. Et il est important de considérer le soin par la parole dans toutes les facettes de la relation thérapeutique. Qu'est-ce que le soin relationnel? C'est la qualité de la relation qui va conduire à la possibilité de soin. Ce n'est pas forcément ce que veut dire ce n'est pas forcément ce que va dire de faire le soignant qui fait les soins, mais son aptitude à être dans la relation, à mettre en place les conditions nécessaires à la personne pour pouvoir avancer dans son champ émotionnel et intellectuel. Un soin relationnel nécessite de réfléchir aux objectifs, aux moyens, aux déroulements qui seront utilisés et aux interactions qui se nouent entre le soignant et le sujet, et surtout avoir une écoute empathique.
Depuis quelques années déjà, le terme de soin s'est inscrit dans une démarche de consommation, voire d'injonction. Il faut prendre soin de soi. Dans le cadre de notre pratique, l'acte de prendre soin n'a ni une visée individualiste ou narcissique nombriliste. si la notion de prendre soin sous-entend la notion de précaution, de prévenance, d'attention aux autres, elle ne s'y limite pas. Il faut y entendre un souci de l'autre dans l'accueil d'une souffrance singulière. Prendre soin, ce n'est pas vouloir le bien de l'autre, car c'est une notion moralisatrice et très subjective, mais respecter la singularité de chaque sujet que nous recevons. Savoir attendre, ne pas intervenir ou chercher à enrayer un symptôme qui peut avoir une fonction particulière, soutenir une élaboration, c'est aussi prendre soin.
Le soin vient à point nommé dans un parcours personnel et invite à considérer la dimension du temps, temps psychique propre à chacun. Le temps avec lequel on travaille, si on veut spécifier, singulariser un petit peu le travail psychiatrique, est, souligne Jean Houry, loin d'être défini. Il est toujours nécessaire de proposer, d'inventer. Si on arrête d'inventer, il n'y a plus rien de valable. Eh bien, ce temps-là n'est pas du temps au sens chronologique du terme, ce n'est pas le temps des maîtres. Cela suppose que notre travail s'appuie sur les ressources et les potentialités propres à chacun. Le soin sans visage s'articule à partir du « être avec », cher à Houry. Il opère, donc le soin, à partir du moment où l'on rencontre, où l'on prend le soin de rencontrer le patient, d'être attentif à sa parole, à ses silences, à ses mouvements. Le soin se produit autant dans des moments informels que dans des moments plus formels. En entretien régulier, lors d'ateliers, au moment d'accompagnement ou encore lors de partage de moments autour d'un café, d'un repas, d'une cigarette. Ce qui importe, c'est d'être avec l'autre et cela suppose de consentir à partir en voyage dans son univers intime.
Pour mon programme.
Voilà, il va y avoir un tirage au sort pour la conclusion, j'ai l'impression.
Ah bon, hein. Ça va, Aline. J'ai un prénom qui commence par A, donc jusque fort d'être voilà. La première.
Aline, par ordre alphabétique, c'était à vous de conclure, bah, par exemple avec le programme des animations de prévention.
Voilà, donc pour conforter la personne qui a bénéficié du radio-trottoir, nous on a mis en place quasiment une semaine d'action, au moins sur Évreux, mais il y en a ailleurs, mais comme nous sommes sur Évreux, on va plutôt valoriser ce qui se passe sur Évreux. Bien entendu, moi je suis seule sur le poste, mais j'ai beaucoup de chance d'être très bien accompagnée par mes collègues. Vous en avez entendu une d'ailleurs tout à l'heure qui est très présente. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres, même si ce n'est pas leur boulot au quotidien de faire de la prévention. Mais qui savent, pendant une journée ou deux journées, se détacher du CHRS, de l'accueil d'urgence et d'ailleurs. J'ai bien sûr, puisque nous sommes une association, une grande liberté aussi de travailler avec des bénévoles. Et puis nous essayons quand même régulièrement, quelles que soient aussi les structures, d'y associer aussi des personnes accueillies, que ce soit pour l'accueil du public et pourquoi pas aussi nous aider. Et puis bien sûr, comme nous sommes sur Évreux, nous avons aussi une aide quand même très 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 importante de la ville. En mettant à notre disposition des salles, que ce soit l'abordage, la salle Jules Janin. La ville nous autorise aussi à nous installer sur le domaine public, donc au miroir d'eau demain matin. Et puis nous allons avoir aussi pendant toute une semaine aussi des actions à la Maison de la Santé. Donc on va pouvoir rencontrer des publics différents dans des lieux différents et des activités différentes. Alors pour samedi, c'est le 1er décembre et même si c'est un samedi, on sait se mobiliser aussi ce jour-là. Et donc il y aura donc un stand donc en ville et le soir nous allons passer un petit moment beaucoup plus festif avec un concert de l'ensemble vocal Constellation à la salle Jules Janin. Et en parallèle, la mairie aussi va installer une exposition en même temps samedi. Et lundi, nous allons là faire du théâtre interactif pour pouvoir permettre à des jeunes et d'autres, des adultes, aussi de s'exprimer sur la prévention. Et là, nous allons nous installer à la salle de l'abordage où certaines structures, des établissements scolaires, bien sûr aussi des personnes accueillies vont venir nous rendre visite. Et l'horaire donc, pour l'abordage est à partir de 13h30 où nous aurons également un stand de prévention, de documentation. Et le soir, la journée va s'arrêter un petit peu plus tard puisque nous irons dans l'amphithéâtre de l'IFSI où là nous allons prévoir donc une conférence, d'une part avec le médecin référent de l'hôpital qui est docteur Pathé, et nous allons aussi nous en profiter pour bien sûr retravailler, recommuniquer sur les TROD, puisque nous allons effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, démarrer effectivement, et déjà en avoir fait quelques-uns, donc on va insister sur cette nouvelle effectivement possibilité de faire du donc des dépistages, et donc la conférence démarre à 19h30 à l'IFSI et c'est en accès libre. Et puis donc la Maison de la Santé, où là nous allons démarrer donc lundi par une porte ouverte. Mardi, nous allons voir le matin un café santé où nous allons travailler de nouveau sur le dépistage et sur les TROD. Et bien sûr, rappeler, parce que le dépistage peut être un frein pour certaines personnes lorsqu'elles vont nous dire que au niveau sécu, ils sont pas tout à fait au clair, qu'ils vont effectivement avoir des dépenses qui vont pas être prises en charge et que quelquefois, voilà, il va falloir lever aussi ce frein du dépistage. Donc ce sera aussi avec nous, avec des collègues travailleurs sociaux, de pouvoir bien sûr retravailler sur la possibilité de se faire soigner. Mercredi, comme c'est le mercredi, on va cibler les plus jeunes. Et là, le centre de planification va travailler avec nous pour faire quelque chose aussi avec des petits ateliers sur le VIH, mais bien sûr aussi sur la contraception, la sexualité, la vie affective, pour faire quelque chose de beaucoup plus global. Jeudi, de nouveau le matin, on va retravailler aussi dans le cadre du dépistage et des soins, de la prise en charge. Et cette fois-ci, Françoise du CDAG va nous rejoindre. Tout ça à la Maison de la Santé le matin de 10h à midi. Et vendredi, nous allons faire une grande journée plutôt destinée au public adulte. Donc là, on a contacté les centres de formation, les centres d'hébergement aussi. Donc pareil, expo, nous avons des jeux, nous avons bien sûr de la documentation, des préservatifs à mettre à disposition donc de tout le monde. Et nous allons conclure donc vendredi 7 et samedi 8. Alors, une nouvelle activité pour nous. Et là, voilà, on va avoir un festival de reggae. Donc des jeunes garçons sont venus vers nous pour nous dire, voilà, nous, on a envie de faire quelque chose dans le cadre de la solidarité. On cherchait une association, voilà, ils sont arrivés à l'abri. Et nous allons avec eux travailler bien sûr sur un stand de prévention et eux bien sûr travailler aussi sur la solidarité. Et tout ça donc avec le 13 bis donc de la rue Isambard qui va aussi nous accueillir pendant ces deux journées. Donc on vous attend avec beaucoup de plaisir.
Nous remercions donc tous nos invités en espérant que vous avez passé un bon moment parmi nous. Et si vous voulez...
Vas-y. Voilà. Alors juste, effectivement, je suis très bavarde, vous avez remarqué, c'est pour ça que je fais de la prévention aussi. Donc voilà, Françoise, effectivement, est là, elle n'est pas à ma droite, mais à ma gauche. Mais je reprends le relais tout de suite pour dire que voilà, au niveau du centre de dépistage, voilà, il y a effectivement des permanences, mais il y en a justement une d'ajoutée, donc mercredi après-midi, donc de, alors sans rendez-vous, donc de 14h à 16h30. Le docteur Dib et Françoise vous accueilleront bien sûr pour faire des dépistages, en plus bien sûr de ce qui se fait déjà en début de semaine. Merci.
Merci Aline pour tout ce grand programme. Prochain rendez-vous le 28 octobre pour une émission spéciale musique. Prochaine émission le 28 décembre et non le 28 octobre.